On est toujours bien accueillis quand on va dans les églises, mais là, je dois dire que chez vous, c'est particulièrement chaleureux, si je peux me permettre ce jeu de mots idiot. Le degré est élevé chez vous. Quand on était à Bordeaux avec Vito il y a quelques semaines, on bavardait de finances et de Jéhovah Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Et il m'a dit, ça serait bien que tu viennes à Guebwiller partager un peu tes expériences. Puis je me disais, aller à Guebwiller partager mes expériences sur Jéhovah Jiré, il y en a beaucoup quand ça flusque que moi. Et puis bon, le Seigneur a fini par... Enfin, il s'est trouvé que Luc, qui n'était pas au courant, m'a invité derrière en me disant, il faudrait que tu viennes pour que tu sois visible, il m'a dit. Alors c'est moi. J'espère que vous me voyez, vous allez m'entendre. Donc, forte de l'invitation de Vito et de Luc, je voudrais vous apporter ma petite quote-part sur celui que je connais comme Jéhovah Jiré. Mais avant, j'aimerais chanter quelque chose. C'est un chant de Christensen. Tu l'as sur le main C'est un chant de Chris Christensen, vous le connaissez. On connaît moins les chants qu'il chante avec Laura dans un CD qui s'appelle En chemin. On le reprend, on arrête, s'il te plaît. C'est une prière. Une prière du Père qui s'adresse à chacun d'entre nous. Et c'est une prière du Père pour nous qui est pleine de tendresse, qui est pleine de tout le cœur du Père qui veut nous relever, qui veut nous assurer qu'il est celui qui est avec nous tous les jours. Et le leitmotiv du chant dit que ton cœur ne doute jamais. Que ton cœur ne doute jamais de mes routes. Souviens-toi que toutes me trouveront là. On peut y aller cette fois. Quand ta main lâche, la main que je tends, quand vient l'orage et que soufflent les vents, je te sais faible, je te sais tremblant, mais jamais ta peine ne me trouve absent. Laisse-moi te prendre. Laisse-toi surprendre. Laisse-moi t'apprendre le son de ma voix. Que ton cœur ne doute. Oh, jamais de mes routes. Souviens-toi que toutes me trouveront là. Autant de gestes et si peu de foi. Quand tout se presse au-dedans de toi, oh, si ton âme connaissait son prix, combien je t'aime et combien je prie, oh, laisse-moi te prendre. Laisse-toi surprendre, laisse-moi t'apprendre le son de ma voix, oh, que ton cœur ne doute jamais, jamais de mes routes. Souviens-toi que toutes me trouveront là. Là, que ton cœur ne doute. Oh, jamais de mes routes. Souviens-toi que toutes me trouveront là. Souviens-toi que toutes me trouveront là. Voilà, alors je redis, rendre témoignage de Jéhovah Jireh. Ma prière, c'est que ça descende, ce chant tellement profond dans vos cœurs, que ça s'inscrive et que ça y demeure jusque dans la vie éternelle, cette parole qui nous vient directement du cœur du Père. Chris Christensen, c'est un chanteur prophétique. Et je ne sais pas si vous l'avez rencontré, mais c'est vraiment un cœur qui aime le Père. Passons à la suite. Donc, rendre témoignage de Jéhovah Jireh, je dois dire que c'était difficile dans mon cœur. Pourtant, c'est un message que j'ai apporté souvent, qui est facile en principe à apporter, mais ça a bataillé fort. Et puis, il y a quatre raisons qui sont montées dans mon cœur, avant, indépendamment de parler de Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il y a quatre choses qui sont montées dans mon cœur, où le Seigneur m'encourageait en me disant, mais je t'ai dit, tu seras mon témoin. Ça devrait être suffisant pour parler en son nom et pour parler de ces choses-là. Et puis, comme je suis un papa avec trois enfants et puis huit petits-enfants, l'Ancien Testament nous invite à rendre témoignage. Tu raconteras à tes enfants, tu leur diras les grandes choses que l'Éternel a fait pour toi. Et l'Éternel a fait des grandes choses pour nous. Et on veut les raconter. Et donc c'est une deuxième raison de témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Il y en a une autre encore plus sérieuse, si tant est que les deux premiers ne le soient pas, mais l'Apocalypse nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ça devrait être suffisant, mais c'est aussi à cause de la parole, de leur témoignage. Et j'ai le sentiment, en venant parler de Jéhovah Jireh chez vous, ici, dans ce lieu particulier à Guebwiller, de ce qu'il nous faut renverser quelque part, l'ennemi de nos âmes, dans le domaine des finances. Et c'est une raison pour moi de partager les choses que le Seigneur a fait pour nous. Et je crois que c'est sûrement le nœud du combat là, dans ce qui nous occupe. Il y a quelques années, j'avais pas l'intention de le dire, mais le Seigneur me le rappelait tout à l'heure pendant la louange. Il y a deux ans en arrière, c'est comment il s'appelle, Debenet qui me disait Richard, il était en train d'enseigner, et puis d'un coup il m'a dit Richard, tu vas piétiner les œuvres de l'ennemi. Et il me disait ça tout à l'heure, donc ça explique peut-être que. On va rentrer dans quelque chose de plus sérieux que... Enfin, tous nos messages sont sérieux. Mais j'ai le sentiment que c'est un combat qui est fort au-dessus de vos têtes, de nos têtes, parce que je fais partie de la maison, dans ce domaine ici à Guebwiller. Voilà, donc une troisième raison, c'est parce que les témoins l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, bien sûr, qui est essentiel, mais à cause de la parole, leur témoignage. Et puis, il y en a une troisième qu'on découvre. Une quatrième raison aussi, c'est Bill Johnson, qui nous, vous l'avez peut-être entendu ces dernières années, qui nous dit, qui donne une interprétation particulière d'Apocalypse 19:10. Il dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et moi, je n'avais jamais entendu ça. J'ai entendu deux fois dire la chose. Il le dit par rapport à la guérison. Il dit que si nous témoignons de Jésus, de ses œuvres de Jésus dans le domaine de la guérison, alors l'esprit qui est en nous, l'esprit de la prophétie, annonce à nouveau la guérison et que nous allons engendrer d'autres guérisons en témoignant des œuvres de Jésus. Alors, je crois que dans ce domaine de l'Éternel qui pourvoit, je veux aussi faire ma part et croire que là aussi, on peut appliquer cette parole du témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie. J'arrive donc. Excusez-moi pour cette longue introduction. Dans Matthieu, des textes qu'on connaît par cœur, enfin peut-être moi parce que ça fait 40 ans que je les lis, mais vous aussi j'en suis sûr, des textes qu'on connaît par cœur, alors je les ai pris exceptionnellement dans la Bible en français courant, histoire que, vous savez, quand c'est toujours la même musique, ça glisse, comme sur les ailes d'un canard. Alors on va juste essayer de changer de musique pour entendre les paroles. Dans Matthieu 6, verset 24, personne ne peut servir de maître. Il haïra l'un et aimera l'autre. Il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Ça, le tableau est posé d'entrée. C'est là que se situe le combat, j'en suis sûr, et c'est ce que le Seigneur, notre Seigneur, celui que nous aimons, nous dit clairement, vous ne pouvez pas servir de maître. C'est ou bien le Seigneur, ou bien c'est l'argent, maman, parce que l'argent, après tout, on est d'accord que c'est ça, c'est le français courant, l'argent c'est neutre, ça n'a pas de puissance en soi. Mais vous ne pouvez pas servir Dieu, vous devez soit choisir Dieu, soit choisir maman. Et au verset 25, il dit, voilà pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas servir à Dieu et maman, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture, de la boisson. Et il développe, ne vous inquiétez pas une première fois. Au verset 27, qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci et les inquiétudes, c'est la même chose. Qui peut prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait. C'est Jésus qui pose la question. Et une troisième fois au verset suivant, il nous dit « Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ?» Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, mais pourquoi vous inquiétez-vous pour une chose ou pour une autre ? Ne vous inquiétez pas. Il l'a dit une troisième fois là. Et puis, à la fin du verset 30, il nous dit « Comme votre foi est petite. » Donc il semblerait que notre inquiétude soit l'opposé de la foi. Je vous dis des platitudes, des choses qu'on connaît bien sûr. Mais en tout cas, c'est clair que notre foi, ou notre manque de foi, est le fruit de cette inquiétude. Et que le Seigneur constate cette petite foi. Enfin, il constate quand même qu'on en a une petite. Donc c'est déjà pas mal, on va pouvoir la faire grandir. Et surtout lui. Comme votre foi est petite, ne vous inquiétez donc pas, quatrième fois en quelques versets, ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, avec quoi nous habillerons-nous. Ce sont les païens qui cherchent continuellement tout cela. Ce sont les païens, ceux qui cherchent, Maïmon, qui cherchent continuellement tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera tout le reste. Cinquième fois, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même, la peine qui se présente chaque jour suffit pour la journée. Je lis le français courant. Ne vous inquiétez donc pas, c'est ce que le Seigneur nous dit. Ensuite, dans l'évangile de Marc, il y a le jeune homme riche qui est venu voir Jésus, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la relire, Et puis pour finir, le prix à payer est trop grand, donc il s'en va tout triste. Puis les disciples disent, mais on n'y comprend rien. Puis c'est un petit peu la pagaille entre eux. Ils discutent, et leur cœur est troublé. Et puis ils disent, mais alors qui peut être sauvé? Du coup, et Pierre, on connaît Pierre, c'est un peu le syndicaliste de la bande, celui qui vient faire rétablir, et il vient vers Jésus, et je ne peux pas croiser mes bras là, parce que j'ai le micro, mais je le vois bien en disant, mais écoute Seigneur, et puis il croise ses bras, parce qu'il veut demander des comptes à Jésus. Parce que quand on dit écoute, quand je dis à ma femme, qu'on a une discussion un peu, dès que je dis écoute, à partir de là, ça devient sérieux, il va falloir qu'il écoute. Hein. Et puis ça marche dans l'autre sens. Mais voilà, Pierre, il en a un peu gros sur la patate, comme c'est Pierre. Mais écoute Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Et dans les versets avant, Jésus a aimé le jeune homme riche alors qu'il savait qu'il allait partir. On ne sait pas la suite, hein. Mais là, c'est pareil. Pierre a dû croiser les bras, il demandait des comptes, mais à mon avis, Jésus là, était plein d'amour pour Pierre. Et il lui a répondu clairement. Pierre lui dit, écoute, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse encore de plus? Apparemment, rien. Jésus lui répondit, je vous le déclare. Et la suite est un peu étonnante parce qu'il dit, c'est la vérité. Est-ce que Jésus peut dire autre chose que la vérité? Je ne sais pas. C'est très étonnant que le Seigneur prenne la peine de dire, je vous le déclare. Et ce que je vous déclare, c'est la vérité. Alors, je vous le déclare aussi, c'est la vérité, ce que dit Jésus, pour chacun d'entre vous, pour vous comme pour moi. C'est la vérité. Si quelqu'un quitte pour moi, et pour la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, il recevra 100 fois plus. Dans le temps où nous vivons, c'est pas un truc pour après, c'est un truc pour maintenant. Dans le temps où nous vivons, il recevra 100 fois plus s'il a quitté tout ça. Maintenant, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs, avec des persécutions aussi. Et dans le temps qui viendra ensuite, il recevra la vie éternelle. La dernière fois que j'ai parlé de ce texte, c'était à l'église de Sens où j'étais un nouveau venu comme intervenant. Et quand je lisais ça, je me disais, je vais zapper les persécutions. Parce que c'est drôlement bien d'apporter Jéhovah Jiré, l'éternel qui pourvoit. Maintenant, les persécutions, c'est pas forcément facile de. Et j'ai le Seigneur me dit, attends, c'est ma parole. Alors j'ai quand même parlé des persécutions, mais j'ai quand même cité que Jésus disait, avec toutes ces choses-là, il y a des persécutions. Mais je trouve que ça donne encore plus de poids à la parole de Jésus qui nous dit, en vérité, et ce que je vous dis, c'est la vérité. Il n'aurait pas mis les persécutions, je veux dire. Parce que les persécutions, c'est encore plus dur à annoncer. Mais il les met là en plein milieu pour dire que lui nous dit tout. Il ne cache rien. Il nous annonce les choses comme elles sont. Et s'il y a les persécutions au milieu, eh bien, il y aura les persécutions, mais en tout cas, dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il nous dit que si nous avons tout abandonné pour lui, alors nous allons recevoir au centuple, dans le siècle présent, maintenant. Et c'est lui qui parle, et c'est lui qui est Seigneur de la vérité. Et je vous invite à recevoir cette parole de Jésus, cette promesse de Jésus. Dans les Philippiens encore, pour continuer. Juste peut-être avant, quelque chose qui n'est pas une doctrine, qui est quelque chose qui travaille mon cœur. Vous savez que Jésus a dit au jeune homme riche, va, le jeune homme riche lui demandait qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. À partir de là, tu auras un trésor dans le ciel, et puis viens et suis-moi. Donne tout ce que tu as, à ce moment-là, tu auras un trésor dans le ciel, et viens et suis-moi. Et là, aux disciples, il dit toutes ces choses qui sont pour nous, les 100 maisons, les 100 frères, les 100 sœurs, etc. Toutes ces choses dont nous avons besoin. Alors, en réfléchissant à tout ça, je me dis, mais ce trésor dans le ciel, qu'est-ce que c'est ce trésor dans le ciel? Parce que quand on va être dans le ciel, dans le royaume de Dieu, parce qu'il y a tout ça autour là, on va être dans la présence de Jésus. Jésus a dit que quand il allait remonter dans le ciel, il allait pour nous préparer une place, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Donc, quand je vais être dans le ciel, quand nous serons dans le ciel, dans sa présence, on n'aura pas besoin de maison déjà. Et puis, on sait bien que dans le ciel, il y aura des arbres qui vont donner des fruits tous les mois. Donc, on n'aura pas besoin d'aller faire les courses avec le Seigneur. Apparemment, dans le ciel, tout est pourvu. Et puis, il n'y aura pas de maladie, bien entendu, donc on n'aura pas besoin de payer le médecin, on n'aura pas besoin de la sécu. Vous imaginez les administrateurs, tout ce qu'on va économiser là-bas, quand il faudra payer au début du mois d'avril. Tout ça, ça va être supprimé. Donc je me dis, mais de quoi est-ce qu'on va avoir besoin dans le ciel, en fond ? On aura une maison, on aura de quoi manger, on ne sera pas malade. Voilà. Et moi, j'ai le sentiment, je ne lance pas ça comme une doctrine, mais j'ai le sentiment que quand il dit ça au jeune homme riche, va... Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et suis-moi. J'ai le sentiment que si on suit Jésus, à partir de là, on a besoin de beaucoup plus d'argent qu'avant. Et pour moi, il me semble que ce royaume de Dieu, ce ciel dans lequel se trouve notre héritage maintenant, eh bien c'est à nous maintenant. Parce que le royaume de Dieu, il est là maintenant, il est là aujourd'hui, même s'il est à venir, il est déjà là, c'est tout le mystère du déjà là et de l'avenir, mais... Voilà, je vous lance ça juste comme ça, c'est pas une doctrine encore, c'est pas Paul qui parle, c'est juste Richard comme ça. Il me semble qu'il y a un trésor dont on a besoin et que le Seigneur veut s'en servir si nous avons tout donné. Voilà. Alors dans les Philippiens, juste un peu pour confirmer cette pensée, un texte qu'on cite facilement dans ce domaine de la vie par la foi, comme on dit, et de l'Éternel qui pourvoit, Paul dit l'avant-dernier verset, verset 19 du Philippiens 4, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse en Jésus-Christ. » Mon Dieu pourvoira, c'est un texte extraordinaire, c'est une promesse extraordinaire, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » C'est le pendant de Jésus qui nous dit que vous aurez sans frère, sans sœur, etc. Et juste au-dessus, Paul dit qu'il a reçu les dons des Philippiens. Et il dit, ce n'est pas que je cherche simplement à recevoir des dons, mais je désire qu'un bénéfice soit ajouté à votre compte. Il me semble que ça va aussi dans ce trésor. D'ailleurs, c'est pas il me semble, c'est clair. Paul dit que s'ils ont donné, alors quelque chose se rajoute à leur compte. Et moi, je dis que ce compte, il est pour nous maintenant. On en a besoin maintenant de tout ce qu'il y a dans ce compte. Vos dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Vos dons, et chaque fois que nous donnons, et quand nous donnons tout, c'est une offrande d'agréable odeur pour le Seigneur. C'est un sacrifice que le Seigneur honore. Et à partir de là, le Seigneur peut puiser dans ce que nous avons donné. Et il y puise à l'infini. On sait que quand la veuve de Sarepta a donné, la toute dernière chose, eh bien, elle a eu après jusqu'à ce qu'elle ait les plus besoins et que les choses s'arrangent. Et c'est la même chose chaque fois que quelqu'un donne. Donc c'est pas une affaire de quantité de donner, mais il semble que ce soit le fait de donner tout ce que nous avons. Je suis désolé, là, ça va peut-être contrarier votre vieille nature et votre vieille carcasse et votre vieille manière de vivre. Et ça me contrariait au début de vous annoncer ça, mais c'est clair, c'est fort sur mon cœur. Le Seigneur s'attend à ce que nous lui donnions tout. Et il nous demande de lui donner tout pour que nous puissions aller tellement plus loin et que nous puissions recevoir tellement plus que ces choses, qui, bien sûr qu'il nous les donne déjà, mais il a beaucoup plus. Et je crois que le secret, c'est que le Seigneur nous demande absolument tout. Et pardon à ceux qui ont déjà l'impression d'avoir donné tellement beaucoup. Le Seigneur leur dit, en tout cas, si tu m'as tout donné, à ce moment-là, il répond comme à Pierre. Vous pouvez décroiser les bras. Et il va vous donner ce que vous avez besoin. On est venu au Seigneur en... Oh là là, ça fait longtemps maintenant. Ça fait 41 ans, en 1974, à un endroit où il faisait encore plus chaud qu'ici, puisqu'on était au Tchad. C'était 35 degrés dès 8h du matin, 8h30 après la réunion de prière, et après c'était 40 jusqu'à 45. Donc voilà, c'est là que le Seigneur nous a trouvés. Et on a rencontré un homme qui était venu 20 ans avant avec sa sœur, juste pour l'accompagner au travers du Sahara, pour conduire la voiture, puis après il devait rentrer en France. Et voilà qu'ils ont prié, quand ils sont arrivés à N'Djamena, ils ont prié pour des malades, les malades ont été guéris, il y a eu plusieurs miracles. Et cet homme qui était parti juste pour, normalement il devait rentrer et prendre son travail chez Berlier, il est resté à N'Djamena. Mais comme il était parti un peu en fraude, il n'avait pas de soutien missionnaire. Et en plus, la mission dont dépendait sa sœur qu'il avait amenée, il y avait eu du brisbille, ou bisbille, je ne sais plus comment on dit. Mais toujours est-il qu'il n'y avait plus de soutien missionnaire ni pour l'un ni pour l'autre. Donc ils ont appris, et dans le témoignage de cet homme qui nous a parlé du salut, qui nous a parlé de la guérison, il y avait cette énorme quantité de la présence de Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit. Et il nous expliquait qu'il nous a cité plein de choses où Jésus avait pourvu à leurs besoins. Donc c'est notre nouvelle naissance, elle démarre avec ces choses-là, comme un cadeau, ce que je considère comme un cadeau de la part du Seigneur dès le commencement. Au bout de quelques mois, on a été conduit à rejoindre la porte ouverte à Chalon, pas celle de Mulhouse. Et à l'époque, c'était une école de formation missionnaire. Et là, il y avait entre, je sais pas, 60 à 80 personnes qui vivaient en s'attendant à Dieu exclusivement pour tous leurs besoins. Et nous, on ouvrait, malgré le témoignage d'André au Tchad, on ouvrait de grands yeux, en tout cas moi qui suis un administrateur dans mon cœur et dans ma façon d'être, j'ouvrais des grands yeux devant ce qui se passait dans cette maison parce que il demandait simplement au Seigneur, en fonction de Philippiens, où le Seigneur dit qu'il pourvoirait à leurs besoins, et le Seigneur le faisait. Et ce qui était extraordinaire, c'est que c'était une école de formation missionnaire, ils avaient 70 personnes qui étaient sur le champ missionnaire en Afrique, au Brésil, en Inde. Donc, il y avait tout un aller et venu, il fallait payer des billets d'avion, etc., etc. Alors qu'eux vivaient déjà complètement dans l'attente de ce que le Seigneur pourvoirait. À l'offrande du dimanche, toutes les offrandes et toutes les dîmes du dimanche étaient consacrées entièrement, d'un dimanche à l'autre de l'année, tous les dimanches, l'offrande et les dîmes étaient consacrées uniquement pour la mission. Donc ces gens-là, qui pourtant s'attendaient au Seigneur, consacraient encore toutes ces choses pour que le travail du Seigneur puisse se faire. Et je bénis Dieu de ce que nos yeux ont vu ça, que mon cœur a été impacté par ces choses-là. Parce que ce sont des choses qui sont inscrites très très fort, comme des réalités qui sont vraies. Et il n'y avait pas besoin de se... pas tant besoin de se bagarrer pour admettre que c'était des réalités. Alors on est reparti en Afrique. Et puis là, au bout d'un an et demi, le Seigneur nous a dit, enfin en tout cas j'ai entendu clairement le Seigneur qui me disait qu'il fallait qu'on rentre en Europe pour faire une école biblique. Alors on voulait une école de plein évangile évidemment, et on a trouvé à Bruxelles, une école des assemblées de Dieu américaines. On rentrait d'Afrique, on n'avait pas un centime puisqu'on avait passé un an et demi avec ce missionnaire qui s'est occupé de nous dans tous nos besoins. On n'avait pas d'église derrière nous, puisqu'on s'était converti dans un des pays les plus pauvres du monde, le Tchad. Notre famille nous regardait très 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 largement de travers, parce qu'on avait abandonné, ma femme était fonctionnaire, et c'était un scandale d'abandonner son travail de fonctionnaire pour aller faire je ne sais pas trop quoi. Donc on n'avait pas grand-chose dans les poches, sinon rien du tout. Et on est arrivé dans ce collège, et autant à la PO, ma foi, ceux qui étaient étudiants pouvaient donner ce qu'ils avaient, là, les choses étaient très, 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 très chères. Les Américains n'ont pas la même conception des choses au niveau des finances que nous, et c'est très bien. Alors, on est allé voir le directeur, et on a essayé de plaider notre cause, en disant, voilà, on vient d'Afrique, pas de famille, pas d'église. Et on s'attendait à ce qu'il nous fasse un rabais, avec quelque chose, quoi. C'était un vieux pasteur de 80 ans. Et il a prié avec nous, et il nous a dit, « God has a miracle for you ». Enchanté, merci, super. Dieu a un miracle pour nous. Moi, j'attendais autre chose, qu'il fasse un effort, quoi. Qu'il nous dise, bon, vous avez été un peu missionnaire, on va essayer de vous baisser de là, rien du tout. Vous avez God, Dieu a un miracle pour vous. Alors, on est rentré, on est parti avec notre parole, connaissance de cet homme-là. On est rentré à Lyon, à la maison. Et là, on est rentré, et puis on chante. Moi, j'ai pas le souvenir qu'on chantait vraiment, ouais, Dieu a un miracle pour nous, Dieu a un miracle pour nous. Mais c'était plutôt, ouais, Dieu a un miracle pour nous. Bon, et on est arrivé à la maison, il y avait une lettre qui nous attendait. Et c'était des gens qu'on avait connus au Tchad, missionnaires également, qui travaillaient dans l'école chrétienne aussi là-bas, au collège protestant. Et ces gens nous disaient, voilà, on est là pour 2 ans, on reçoit un gros soutien d'une mission allemande, et on sait que vous allez partir à l'école biblique, alors on voudrait partager ce qu'on a, et on vous enverra tous les mois sur votre compte 1000 francs français, c'était en 76, 1000 francs français pour vous soutenir. C'était le miracle de Dieu que nous avait annoncé ce brave homme qui entendait. mieux le Seigneur que moi. Et donc, ça a été le commencement, parce que là, pour une fois, là, on était enfin au pied du mur. Avant, on avait vécu l'APO avec la foi de l'APO. Après, on avait vécu au Chavez avec la foi d'André Giraud. Mais là, on était d'un coup là au pied du mur et il fallait que le Seigneur fasse quelque chose ou bien ça ne marchait pas. Donc, ces amis nous ont envoyé fidèlement pendant... ça représentait à l'époque un peu plus de la moitié d'un SMIC, donc je dirais aujourd'hui 600 euros. Ça ne couvrait pas parce que les Américains, c'est vraiment très cher. Mais ça ne couvrait pas, mais ça bon, c'était signe clair et net qu'il fallait y aller, qu'il fallait avancer. Il nous manquait encore pas mal d'argent, alors on a commencé à faire la lessive dans le collège. Moi, je lavais les chemises et Nicole les repassait. Ça nous faisait des rentrées un petit peu, mais ça ne suffisait encore pas parce que quand on avait tout dépensé, il y avait encore 15 jours, il fallait manger et on n'avait plus rien. Et puis là-dessus, ma chère et tendre m'annonçait qu'elle était enceinte. Donc, à partir de là, elle, qui n'avait jamais mangé de sa vie, s'est mise à dévorer. Et donc, les besoins étaient encore plus grands. Mais on avait 15 jours par mois. En principe, il n'y avait rien dans mon budget d'administrateur et ça ne pouvait pas coller. Et puis, comme elle, je vous dis, elle mangeait outre mesure, elle attrapait les années perdues. Et pendant les interclasses, elles ont mangé des grandes tranches de pain belge avec de la vache qui rit dessus. Et il y avait un jeune qui venait de rentrer dans l'école, qui était belge, on était de 25 nationalités, mais lui, il habitait à quelques kilomètres de l'école biblique. Et ce jeune, il a vu Nicole manger ses tartines, et il a été touché, le pauvre. Et il se trouve que ce garçon... quelques jours plus tard, on descend avec toujours notre besoin dans la tête de nos 15 jours qui allaient arriver où on n'avait rien pour manger. Et en ouvrant le coffre de la deux chevaux, qui ne fermait pas à clé, pour poser mon cartable, j'ouvre et ma voiture était pleine. Mon coffre arrière était plein. Il était plein de, mais il n'était pas plein de pâtes et de riz, comme c'est souvent le cas quand on fait les banquettes. Non, c'est bien comme ça, la pâte et le riz. Mais là, c'était extraordinaire, parce que ces gens, les parents de ce garçon, étaient traiteurs. Tous les week-ends, ils préparaient pour des mariages, pour des communions, etc., etc. Et dans la voiture, il y avait des choses qu'on mange dans les mariages. Il y avait des roast beef, il y avait des crevettes, il y avait des gâteaux de mariage. On était éberlués. Et ce qui était encore plus éberluant, c'est que la semaine où il nous manquait du beurre, eh bien, il y avait une plaquette de beurre. Et la semaine où il nous manquait du sucre, il y avait un paquet de sucre. Et on a vu de façon concrète le Seigneur de A à Z, aussi bien au niveau des finances qu'au niveau de l'aide matérielle par ceux qui ne nous connaissaient même pas. Le Seigneur pourvoir de façon extraordinaire à tous nos besoins. Et pendant 2 ans, Seigneur a pourvu, et on a manqué de rien, alors qu'on n'avait pas d'église, alors qu'on n'avait pas de famille, pour nous aider en tout cas. On avait une famille, mais en tout cas, qui ne comprenait pas ce qu'on faisait, donc, etc., etc. Le Seigneur a été Jéhovah Jireh, il nous a montré qu'il était Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Ensuite de ça, on nous a proposé de prendre la... Vous êtes toujours là, ça va ? Prendre la direction d'un foyer d'accueil pour des sortants de prison. Et on a eu l'avantage de travailler avec un homme, un pasteur qui était un évangéliste puissant, comme il y en avait à la Pentecôte, il y en a peut-être encore, mais il y a une époque où à la Pentecôte, quand ils annonçaient l'évangile, c'était tous les gens, les chaises se convertissaient. Et dans cette église, on accueillait, nous on avait le rôle pastoral, lui le rôle d'évangéliste, et on avait constamment, pendant 3 années, une quinzaine de toxicomanes, gangsters, voyous, tueurs, bandits, tout ce que vous voudrez, qui habitaient avec nous. Et on les amenait, c'était la condition pour rester dans la maison, on les amenait à l'église. Et tous les dimanches, pratiquement, on a eu le cadeau qui était là, puisqu'il y en a un qui levait la main pratiquement tous les dimanches. Et il y en a 250 qui sont passés par la maison dont on avait la responsabilité. Sur les 250, il y en a pratiquement 70% qui ont pris une décision pour le Seigneur. Donc on était bénis dans ce travail. Mais Claude, l'évangéliste, il me disait « Richard, tu m'énerves. Moi, je suis un évangéliste. Ce que je veux, c'est que les hommes soient sauvés. Après, c'est plus mon problème. » Et il me dit « Toi, ce qui t'intéresse, il y a tout ce qui t'intéresse, c'est de faire des disciples. » Forcément, j'ai un cœur de pasteur et ça ne pouvait pas faire. Donc on est restés de bons amis. Mais a grandi dans mon cœur de plus en plus la vision d'un lieu comme sur le modèle de Teen Challenge aux États-Unis aussi, où on puisse prendre les gens, les accueillir, les recevoir, un temps de réhabilitation avec de l'enseignement, etc. Tout ce qu'on ne pouvait pas faire dans le cadre d'un lieu d'évangélisation. Alors la vision a grandi dans nos cœurs, et puis on a lâché Bruxelles, et on est redescendu en France avec nos 2 valises, nos cartons, nos 2 filles surtout aussi, qui était notre plus cher trésor, et c'est à peu près tout ce qu'on avait. Une fois de plus, on n'avait rien que la vision qui était là dans notre cœur d'ouvrir un lieu de, pour ces garçons. On savait qu'ils se convertissaient à droite à gauche, mais à Bruxelles, par exemple, les tentations étaient tellement grandes autour, on était en plein centre de la ville, que ça a marché un moment, mais les gens n'arrivaient pas à suivre. Donc, un besoin d'un lieu de réhabilitation. Et on est rentré en France, on a été conduit, je vous passe les détails, on a été conduit à Dijon, on a atterri dans un petit groupe de prière interconfessionnel, et j'ai partagé ma vision. Et puis là, il y avait un agriculteur qui me dit « Écoute, moi, ça fait 2 ans que je prie pour un projet comme ça, alors bienvenue. » Et puis voilà, on a partagé, on a attendu, on a cherché comment aller de l'avant. Et puis, oui, pendant ce temps à Dijon de préparation de l'ouverture de la ferme, des lieux d'accueil, il y a eu à nouveau une formation à Bruxelles, je vous fais faire des allées et venues, sur la réhabilitation qui était donnée par le directeur Teen Challenge aux États-Unis. Et donc, on est remonté à Bruxelles pendant une semaine et on a écouté cet homme. On a posé tellement de questions parce que, finalement, c'était nos tripes à l'époque. Et il a dit, écoutez, maintenant, prenez l'avion. Et puis venez passer 15 jours chez nous, puis on vous emmènera partout, poserez les questions que vous voudrez, vous verrez ce que vous voudrez, vous emmènerez nos cours, etc. Prenez l'avion, puis venez. Il dit prenez l'avion, c'était comme God is a miracle for you. On avait juste raclé nos fonds de tiroir pour monter à Bruxelles faire cette formation, et prends l'avion. On n'avait pas de sous. Et on est allé faire, le jour où il nous a dit ça, on est allé faire un tour dans Bruxelles, et on a rencontré là une amie qui était de l'église, qu'on avait fréquentée pendant 3 ans, qui était un don de libéralité manifeste. Et elle nous dit, oh, Richard et Nicole, c'est formidable, je savais que vous étiez à Dijon, mais à Bruxelles, mais je ne savais pas où vous trouver. Et puis elle ouvre son sac et puis elle nous dit, voilà, j'avais ça pour vous, mais je savais. Et c'était une enveloppe. Et puis dans l'enveloppe, il y avait l'équivalent d'aujourd'hui 3000 euros. Ça, c'était un beau cadeau. C'était pas pour nous. On a descendu nos filles à Marseille. Avec cet argent, puisqu'il fallait bien qu'elle reste là, on les a descendus chez la grand-mère, et puis avec le train, on est remonté jusqu'à Paris, on a pris l'avion, on a fait nos 15 jours, on a reçu abondamment tout ce qu'on voulait recevoir au niveau de la formation, et puis on est redescendu, on a repris l'avion, et on a repris notre train pour redescendre chercher les filles à Marseille, et on est remonté avec notre voiture à Dijon, et quand on avait fait tout ça, après avoir payé la part du Seigneur qui était la dîme, bah évidemment, l'enveloppe était vide, mais on avait pu faire. Le Seigneur avait pourvu une fois de plus, comme il le fait maintenant depuis 40 ans. On était toujours aussi fauchés, mais le Seigneur avait pourvu. Il avait pourvu de façon absolument surnaturelle et incroyable. Alors, fort de toute cette visite, on avait enfin trouvé une ferme à acheter, mais on était toujours aussi fauchés, bien entendu. Et M. Pont, le directeur de la Porte Ouverte, avait accepté d'être le président de notre association. C'était un apôtre et c'était vraiment, vraiment précieux d'avoir cet homme. Et puis on est allé chez le notaire, parce qu'on avait trouvé la ferme, et on s'est retrouvés tous les deux avec lui devant chez le notaire. Et il me dit, mais alors donc, tu sais comment on va payer ? Et je dis, mais on a bien des promesses un petit peu de cet agriculteur qui nous dit, mais bon... Il me dit, écoute, mon garçon, c'était un garçon qui avait un gros accent de la Saône-et-Loire. Il me dit, mon garçon, ça fait 40 ans que je chine pour acheter des propriétés, pour envoyer du monde en Afrique. On va aller chez ton notaire et puis on va signer et puis on verra bien pour la suite. Et c'était la foi de M. Pont. Il ne se cassait pas la tête et ce n'était pas compliqué. Il me dit, ça fait 40 ans que le Seigneur pourvoit, ben continuez. Et on est allé chez le notaire, il a signé, c'était lui le président. Et puis, quand il a été temps de payer la ferme, on a payé intégralement l'achat de la ferme. Mais la petite histoire, c'est que mon ami, qui est devenu mon ami, cet agriculteur avait fait un emprunt à titre privé. C'est un homme qui avait 6 enfants, qui avait une bonne situation, mais bon, sans plus. Il a fait un emprunt sur 15 ans. Et il a emprunté la totalité de la somme pour qu'on puisse... faire ce que le Seigneur mettait sur notre cœur et sur le sien. Donc le Seigneur pourvoit. Et Eugène, puisqu'il s'agissait d'Eugène, il a tout donné parce qu'il avait besoin de ses sous. Hein. Mais il est rentré dans ce chemin de foi, puis le Seigneur a pourvu pour lui, bien sûr. Mais voilà, encore une fois, le Seigneur a répondu à nos besoins. Et la ferme était à nous, mais c'était 700 mètres carrés d'une ferme qui était abandonnée depuis 20 ans. Où il n'y avait que des murs et que des toits. Alors pour accueillir du monde, et même mes enfants, ce n'était pas possible. Et on s'est retrouvés avec à nouveau nos valises et nos cartons vides, ou en tout cas pas vides, mais nos poches vides. Et le Seigneur a pourvu de façon étonnante. On a commencé par aménager, je ne vais pas vous dire tout parce que ce serait trop long, ça durerait 10 ans. Mais on a été émerveillés de voir le Seigneur pourvoir jour après jour. Il y avait dans notre projet l'installation d'un jeune agriculteur qui allait pouvoir, par son travail et par le travail de ceux qu'on accueillait, on montait une porcherie, etc., un gros truc. Et c'était un peu notre moyen qu'on avait devant nos yeux, sachant qu'on allait vivre avec ça, même si ça n'allait pas tout faire. Et puis quand on a été sur place, on s'est rendu compte que dans le puits, il n'y avait pas assez d'eau. Il y avait à peine de l'eau pour 2-3 personnes, mais qu'on n'est très certainement pas 25 personnes vivre avec l'eau. Donc encore moins de cochons. Et le projet cochon, machin, porcherie, qui allait nous rentrer des sous, eh bien, il est tombé à l'eau, même s'il n'y en avait pas d'eau. Et on s'est retrouvé à nouveau devant le Seigneur. Eh bien, Seigneur, tu nous as mis là-dedans, maintenant on y est, on a fait un appartement. Et on s'est attendu à nouveau au Seigneur. Et on a fait un premier appartement, on a fait un deuxième appartement, on a fait 250 mètres carrés d'accueil qui était sympathique. On a fait un troisième appartement, on a amélioré nos 700 mètres carrés, on les a aménagés pour que tout le monde puisse vivre le mieux possible. Et le Seigneur a pourvu de façon extraordinaire, jour après jour, je ne vous raconte pas tout encore une fois, parce que ça serait trop long, mais il a pourvu de façon étonnante. Juste une fois où il a pourvu qui était très très particulière, on avait tout aménagé, alors on n'avait plus de place, on a dû faire un agrandissement. Et des amis, devant notre besoin d'argent, ont dit « Écoutez, nous on doit construire, mais on peut vous prêter 20 000 francs français. Quand on en aura besoin, on vous les demandera pour construire. » Voilà. Donc on a pris, enfin moi pas trop convaincu, mais le président a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc... Alors on a pris, et quand ses amis ont demandé qu'on leur rende leurs 20 000 francs, on a prié tous les matins à la réunion de prière en disant « Seigneur, il y a tous les besoins d'habitude, mais il y a aussi ces 20 000 francs, pense-y. » Et voilà, on devait les rendre le 1er avril. Et puis l'argent n'arrivait pas. Et puis on a attendu le facteur. Vous savez, des fois on attend plus le facteur que le Seigneur. Le facteur, c'est quelque chose, c'est un facteur. Pour les gens qui vivent par la foi, enfin qui s'attendent au Seigneur. Il faut s'attendre au Seigneur, sans doute, sûrement pas au facteur. En tout cas, là, le facteur, il n'a rien apporté le samedi à midi. On devait rendre le lundi cet argent. Et la journée est passée, le samedi soir, un coup de téléphone d'une amie catholique, enfin une amie, quelqu'un qu'on avait vu deux ans avant, qui me dit « Richard, j'aimerais vraiment vous rencontrer, j'ai quelque chose pour vous. » Bon, vous me voyez arriver. Et j'ai dit « Ben écoutez, demain on est à Dijon, on était à 40 km. » Elle me dit « D'accord, je viendrai vous attendre à la sortie du culte. » Et je la trouve à la sortie du culte et on bavarde. Et elle me dit « Vous avez besoin d'argent ?» C'est une blague. Question à ne pas me poser. Et puis tout d'un coup, j'étais encore la tête dans le culte. Et puis d'un coup, la pièce tombe et je dis « Mais oui, on a besoin de 20 000 francs pour, demain, pour lundi matin. » Elle me dit « Ah, c'est ça. » Et elle ouvre son sac. Elle ouvre une enveloppe et elle sort un premier bon du trésor, 10 000 francs. Oh, je me dis, ça y est, la moitié de la somme qui est déjà là. Puis elle en sort un deuxième de 10 000 francs et je voyais mes 20 000 francs qui étaient sous mes yeux. Et elle me dit, c'était pas tout pour vous, mais je comprends. Alors, elle me donne les 20 000 francs. Et elle me dit, écoutez, il faut que je vous explique, parce que c'est de l'argent que j'ai placé il y a 5 ans. C'est ça qui est extraordinaire dans cette affaire, en plus. Tout est extraordinaire, mais ça en plus. Elle me dit, c'est de l'argent que j'ai placé il y a 5 ans, et si je le touchais avant, je perdais tous les intérêts. Et c'était de l'argent qui était bien placé à l'époque à 8 ou 9%, donc il y avait un gros paquet au bout. Et elle me dit, et j'ai regardé cette semaine, et puis j'ai vu que c'était lundi, on est au bout. Alors elle me donne ces deux bons du trésor qui étaient à échéance le lendemain. Et le lendemain, j'ai pu aller à la banque avec mes trucs. J'ai reçu 20 000 francs pour rembourser mes amis. Et comme c'était le mois d'avril pour les administrateurs, le 15 du mois, il fallait payer l'URSSAF. Et les intérêts faisaient la somme de l'URSSAF. Donc le Seigneur avait pourvu, il avait prévu 5 ans avant, il avait mis à cœur à cette personne de placer cet argent, parce que c'est ça qui est extraordinaire. 5 ans avant, le Seigneur avait prévu, le Seigneur avait prémédité, il nous a prédestinés, et il a tout prévu dans son cœur pour nos besoins, si nous faisons ce qu'il nous demande de faire, si nous cherchons son royaume. Et là, une fois de plus, il a pourvu de façon qu'il nous a... Bien sûr, il y a eu d'autres fois où les choses étaient... Mais enfin, il pourvoyait quand même. Mais là, c'est une des choses que j'aime raconter. On était tout le temps raqués. Hein. Je ne vous dis pas qu'on était riches. Ça, vous savez ce que c'est que d'être raqués pour la plupart. Raide sur la corde, pas sur la corde raide, complètement. Mais ça fait rien. Le Seigneur a pourvu. Et je ne pense pas qu'il y ait tant de textes. Je n'ai rien contre la richesse, loin de moi. Et le Seigneur a fait de moi quelqu'un de riche. Quand on était à Mâcon, je n'étais pas prévu de vous dire, mais à Mâcon, on a été béni financièrement. Et par rapport à ce que j'avais vécu avant, quand je disais à Pierre et à Carlos, on est riche, ça les faisait grincer les dents. Ils n'aimaient pas. Et moi, je sais qu'on était riche à Mâcon. Je sais ce que j'avais vécu avant. Et le Seigneur nous a bénis à Mâcon de façon extraordinaire. Mais ça, c'est une parenthèse. Et aujourd'hui, on est riche. Juste une petite histoire encore, parce qu'elle est jolie, enfin pas juste une, parce qu'il y en aura d'autres, mais, quelle heure c'est ? Oula, c'est si tard que ça. Ça fait rien. C'est, un jour, Anne-Grette rentre de l'école, elle avait 9 ou 10 ans, et elle me dit, papa, elle avait les yeux qui brillaient, vous savez, papa, il va y avoir un camp de ski. D'accord, un camp de ski, il va falloir sortir des sous, et on en cherchait partout, et c'était les sous des Sicia, là. Et j'ai dit, ben écoute, c'est bien, mais il faudra qu'on demande au Seigneur, parce que c'est lui qui pourvoit nos besoins. Alors, le soir, on a prié tous les deux, avec Anne-Grette, et on a demandé au Seigneur, Seigneur, il nous faut 500 francs pour payer ce camp de ski. Voilà. Et puis, dans les 15 jours qu'on suivit, peut-être une semaine, on a reçu une lettre de ma maman qui ne nous écrivait jamais, elle donnait un coup de fil de temps en temps, prendre des nouvelles, mais elle écrivait jamais. Et elle a envoyé une lettre, et sur la lettre, il y avait marqué « Mademoiselle Anne-Grette Sicia ». C'était même pas envoyé à Richard et Nicole, c'était Mademoiselle Anne-Grette Sicia. Et dans la lettre, il y avait un petit mot qui s'adressait à nous, qui disait, voilà, je sais que vous savez mieux ce qu'Anne-Grette a besoin, alors je vous envoie ce petit chèque pour Anne-Grette. Et c'était un chèque de 500 francs. Et le Seigneur a... Et je vous raconterai pas tout, mais quand Anne-Grette a eu besoin d'un piano, le piano est venu, on est allé nous le chercher. Enfin, je vous raconte pas tout. Et je vous ai parlé aussi du manque d'eau, et on a prié longtemps, et un jour, le Seigneur nous a délivrés. Et l'eau est arrivée. Je me souviens que ce jour-là, l'eau, elle était à 5 km de chez nous. Donc, c'était impossible. C'était trop cher. C'était des choses faramineuses. Bon, je vous raconterai ça une autre fois. J'ai encore un tas d'histoires à vous dire. Pour vous dire que les choses ne se passent pas toujours bien non plus. Quand on était au collège biblique, donc pendant ce temps d'apprentissage, j'avais vu une belle voiture qui me plaisait. Et on avait une vieille de chevaux complètement déglinguée, mais qui marchait, qui suffisait pour le moment. Et j'avais lu des livres sur la foi. Alors j'avais lu qu'il fallait s'engager, qu'il fallait témoigner, puis qu'il fallait faire une promesse. Alors je suis allé voir le garagiste, je lui ai dit, voilà, je vous donne des arts, et mon Dieu va pourvoir pour acheter cette voiture. Je reviendrai dans 15 jours pour vous payer la voiture. Et j'ai prié surtout tout seul. Je ne sais pas si tu as dû prier aussi, je ne me souviens pas, mais oui, sûrement. Et puis au bout des 15 jours, bien sûr, l'argent n'était pas là. Et j'ai dû aller m'humilier vers cet homme pour lui dire, écoutez, voilà, l'argent n'est pas là. Et ça a été une leçon extraordinaire, parce que bien sûr qu'il est le Seigneur qui pourvoit, c'est une certitude. Maintenant, il ne pourvoit pas forcément à tous nos petites envies, à tous nos désirs des moments. C'est lui. Il ne pourvoit pas à notre présomption, à tous ces petits envies qui nous semblent légitimes mais qui ne sont pas son projet. Et on n'a pas eu notre voiture, on a continué en deux chevaux. Cela dit, il y a un an, le Seigneur nous donnait notre 9e voiture en cadeau par rapport à nos besoins. Donc oui, il y a un moment il a répondu, mais c'était le moment. Mais avant, ce n'était pas le moment. Il est l'Éternel qui pourvoit malgré tout. Puis une autre fois, on était là depuis plusieurs années, on voyait le Seigneur pourvoir de façon étonnante. Et puis, c'était l'hiver, plein l'hiver ou l'automne, quand le temps est brouillasse. Vous savez qu'on n'est pas bien, que le matin, on se lève, on ouvre la porte. Puis les gars n'allaient pas bien non plus, puis qu'on a envie de se retourner se coucher. Et puis il y avait des nouveaux projets, puis il allait falloir pourvoir, et puis ça devenait trop lourd sur mon dos. Et j'étais fatigué, je disais, mais pourquoi je suis là d'abord, etc. Et pourquoi il va falloir encore... Et puis je m'enfonçais dans mon affaire, quoi. Et puis en plus, c'était un dimanche matin... Et il fallait aller au culte. Quand on n'est pas bien, il faut aller au culte. Et puis voilà, c'était un culte pour les enfants. Alors je me suis dit, oh ben voilà, c'est un culte pour les enfants. J'aurais même pas une parole pour me relever, pour me faire du bien. On va faire un flanellographe. Bon, et puis on est quand même allé au culte, bien entendu. Et puis là, notre école du dimanche, elle était devant son flanellographe, elle parlait aux enfants, elle parlait de Pierre qui marche sur l'eau. Et puis Pierre qui marchait sur nous, elle le disait avec tout son enthousiasme d'école du dimanche. Et Pierre, il marchait sur l'eau et c'était formidable. Et puis tout d'un coup, il a commencé à s'enfoncer. Et puis le Seigneur, bien sûr, est venu pour le rechercher, pour le rattraper, le sortir de l'eau. Et puis le Seigneur, il s'est moqué un peu de Pierre. Il dit alors, hé Pierre, mais qu'est-ce que tu crois? Tu as cru même seulement un instant que c'est toi qui marchais sur l'eau? Mais c'est moi qui t'ai fait marcher sur l'eau. Et là, le réma de Dieu est venu dans mon cœur pour dire, mais Richard, c'est pas toi qui as fait ces années-là, la fatigue, laisse tomber la fatigue, laisse tomber l'inquiétude. C'est moi qui t'ai fait marcher sur l'eau, c'est pas toi, toi, t'es bon à rien. T'es pas capable de faire les choses que j'ai faites. Et évidemment, le Seigneur m'a ressorti de mon marasme où je m'étais mis tout seul. Et je suis reparti, on est reparti pour d'autres aventures avec lui dans le domaine de sa bonté. Ce ne sera pas la dernière chose. Mais on faisait une marche pour Jésus à Montauban, à la fin de ces années-là. Il y a un homme qui vient vers moi et qui me dit, vous vous appelez Richard Sissière? Je lui dis oui, mais je ne voyais pas qui c'était. Et il me dit, j'étais avec vous il y a 10 ans en arrière, à Bruxelles, à la formation pour les toxicomanes, pour la réhabilitation, et vous avez partagé votre projet quand on mangeait à table avec plusieurs. Et il me dit, ça fait 10 ans que vous êtes sur ma liste de prières, et j'ai prié pour vous tous les jours depuis 10 ans. Waouh! Je ne vous raconte pas comment ça coulait. Le Seigneur pourvoit pour tous nos besoins, non seulement nos besoins d'argent, mais s'il y a besoin. Et là, je pense que quand j'étais dans mon marasme, il y avait vraiment besoin. Puis d'autres fois, il y avait besoin d'intercesseurs. Et le Seigneur pourvoit aussi pour les intercesseurs, pour les moments où les choses sont difficiles. Est-ce que je peux encore vous demander 5 minutes? Qui veut me donner 5 minutes? Alors je dis 5, 10, 15, 20, 5. Je vous remercie. C'est la multiplication, on parle de multiplication. Hein. Bon, je vais essayer de ne pas abuser. C'est deux choses que le Seigneur a mis sur mon cœur un peu en préparant ces choses et qui me semblait qu'il voulait que j'ai une chose que je raconte pratiquement jamais. Quand on était encore une fois au collège biblique, tout jeune chrétien, on a été mis au défi pendant une semaine de demander à Dieu de chercher le Seigneur pour qu'on reçoive quelque chose, qu'on demande au Seigneur une somme d'argent et qu'on la reçoive. C'était un exercice, c'était un défi. Et moi, j'ai prié tous les matins et je ne trouvais pas ce que je pouvais demander au Seigneur. Je voyais, ça ne venait pas. Et puis tout d'un coup, il y a une pensée qui a monté dans mon cœur et le Seigneur m'a dit, actuellement, tu me donnes ta dîme. Oui. Actuellement, avec ton budget, tu t'en sors pas. C'était l'époque où on mangeait du roast beef, mais s'il avait pas été là, on ne s'en serait pas sorti. Oui. Eh bien, écoute, je te propose de me donner une double dîme, une dîme et puis 10% d'offrande en plus. Et puis tu vas bien voir si je pourvois ou si je pourvois pas. Gros défi quand même. Alors j'en ai parlé à Nicole, et comme elle est encore plus folle que moi, elle a dit oui. Et on a commencé à croire à cette parole que si on donnait 20% le Seigneur, même si on n'avait déjà pas assez, parce qu'on n'avait vraiment pas assez. Et on a fait pendant un mois, puis le Seigneur a pourvu. Et puis on a fait pendant 2 mois, et puis on a fait pendant 5 ans, puis on a fait pendant 10 ans, on a fait pendant 30 ans. Et le Seigneur a toujours pourvu, alors qu'on donnait 20% de ce qu'on n'avait pas, bien souvent. Voilà. Et puis il y a 4-5 ans, ou peut-être un peu plus même, on avait besoin d'une deuxième voiture, puisque Nicole travaillait pour les écoles, etc. Et le budget ne passait plus du tout. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est soit elle retourne au travail, mais ça serait quand même un peu dommage pour que notre budget augmente. Soit on consacre, si tu es d'accord, Seigneur, cette deuxième dîme qu'on donne, ou ces offrandes, pour le travail de Nicole, parce qu'après tout, c'est pour toi. Et le Seigneur a dit oui. On avait la paix avec ça. Et pendant 5-6 ans, on a fait comme ça. On a donc consacré ça autrement, mais c'était quand même pour le Seigneur. Et puis, le Seigneur a continué de pourvoir, bien entendu. Et puis, il y a un an, j'étais à Lyon, dans la plus belle ville de France. Et puis, c'était Bill Johnson qui était là. Et on a vu les miracles qui venaient, ces miracles qu'on attend. On a vu ces gens qui étaient guéris. Il y a eu au moins 100 de mains qui se sont levées pour dire qu'ils avaient été guéris. Et suite à ça, eh bien, il y a 250 ou 300 personnes qui se sont approchées parce qu'ils étaient interpellés par la guérison et qui donnaient leur cœur au Seigneur. Et moi, en voyant tout ça, j'ai dit, là, c'est mon... J'étais émerveillé d'abord et surtout. Mais il y a mon cœur d'administrateur qui s'est mis en route parce que ça se met toujours en route tout seul chez moi. Et j'ai dit, mais il va falloir, si ça démarre, il va falloir des sous. Il va nous falloir beaucoup d'argent, il va falloir de nouveaux facteurs aussi. Pasteur, il va falloir des églises, il va falloir des sous, Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, ben, si tu reconsacrais ta dîme que tu donnes pour les transports de ta femme, j'en ai parlé, on s'est mis d'accord, on a redonné notre dîme comme ça. Et dans le mois qui a suivi, puisque c'était, on lâchait notre source pour les transports de Nicole, dans le mois qui a suivi, le Seigneur, mon ami Gilles Blanc me donnait une voiture. Donc, la neuvième. Donc, on venait de renoncer au budget et le Seigneur pourvoyait à nouveau. Il nous a jamais lâchés parce que je vous ai parlé seulement des 18 premières années. Et si je vous raconte les 23 prochaines années, vous allez être très fâchés parce que ça va être très tard. Et la deuxième chose que le Seigneur me disait de partager avec vous, c'est cette parole de Jean-Baptiste. Ce sera la dernière chose. Il n'y en a pas pour longtemps. Jean-Baptiste est venu pour annoncer le royaume, la venue de Jésus. Il annonçait le royaume de Dieu. Il disait qu'il fallait aplanir les chemins, etc., etc. Les gens venaient vers lui pour se faire baptiser. Il leur disait, repentez-vous, parce que la cognée est déjà à la racine des arbres. La cognée est déjà à la racine des arbres. Repentez-vous pour le royaume de Dieu et pour les œuvres du royaume de Dieu. Et les gens ont été touchés et ils ont dit, mais Seigneur, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Non, pas Seigneur, Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il faut faire? Que devons-nous faire? Et la réponse de Jean-Baptiste est étonnante, parce qu'il donne pour quatre cas de figure, mais c'est toujours pour des histoires d'argent. Il dit que ceux qui sont péagés arrêtent de prendre plus que ce qu'il faut qu'ils demandent. Donc, on continue de faire ce qui doit être fait, mais pas plus. Les péagers, appliquez la justice, arrêtez-vous de voler en plus. Il dit aux soldats, arrêtez-vous de profiter de votre force, mais contentez-vous de votre solde et ça sera suffisant. Donc ces deux choses-là, ça descend bien, c'est normal, c'est juste, on aime la justice. Et puis le Jean-Baptiste leur dit aussi, mais c'est l'Esprit du Seigneur qui le guide, deux autres choses. Il dit que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas. Ça devient bien plus sérieux, là. Surtout, c'est la tunique d'aujourd'hui, elle va être chaude, je vous préviens. Mais, puis Jean-Baptiste, il avait le beau rôle parce qu'il était en habit de... Personne ne voulait de son truc. Son habit de poil de chameau. Et comme il mangeait des sauterelles, personne ne voulait de... Bon, j'étais juste pour rigoler. Mais... ça devient bien plus sérieux parce que le Seigneur s'attaque là à nos biens immédiats. Là. Enfin, il s'attaque. Non, il ne s'attaque pas. C'est maman qui s'attaque. Le Seigneur nous propose une fois de plus d'entrer plus loin, plus profondément dans son royaume. Ce royaume que nous voyons venir plus important devant nous maintenant, que nous annonçons, que nous espérons et dont on voit plus que jamais les prémices dans plein de domaines. Et le Seigneur dit, Jean-Baptiste dit que celui qui a deux tuniques donne à celui qui n'a pas. Et que celui qui a de quoi manger partage avec celui qui n'a pas. Je pense que je vais m'arrêter là. Vous avez entendu, vous avez reçu. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse prier. Seigneur, nous sommes d'accord de recevoir ta parole comme la vérité. Et nous voulons te bénir, Seigneur, pour ta parole. Parce que c'est elle qui vient changer nos cœurs, c'est elle qui vient nous convaincre, c'est elle qui vient séparer en nous, jointure et moelle. Merci, Papa. Merci parce que tu fais descendre toutes ces réalités dans nos cœurs et tu travailles nos cœurs. Et rassurez-vous, je ne vais pas faire d'appel. Seigneur, viens travailler nos cœurs. Parce que c'est toi qui es la vérité, parce que ta volonté est bonne, agréable et parfaite, Seigneur. Nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Seigneur, nous choisissons d'être à ton service, à toi. Et nous voulons nous opposer, Seigneur, dans l'autorité que nous a donnée. Nous voulons nous opposer aux œuvres du diable et nous voulons marcher. Il nous a dit de marcher sur les œuvres du diable. Et nous voulons marcher sur ces œuvres, Seigneur. Nous voulons piétiner les œuvres du diable. Nous voulons piétiner ses œuvres. Nous voulons piétiner son mensonge. Nous voulons piétiner l'intimidation. Nous voulons piétiner la pauvreté. Tout ce qui nous vient de maman. Tout ce qui nous vient de maman, maintenant, nous marchons dessus. Et nous le piétinons dans l'autorité, sous la protection du sang de Jésus. Nous piétinons les œuvres du diable. Nous piétinons, oui, la pauvreté. Nous piétinons la crainte. Nous piétinons la crainte. Nous piétinons le souci. Et nous croyons que tu es celui, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit. Tu es celui qui dit la vérité. Celui qui est riche. Celui à qui sont l'or et l'argent. Seigneur, pourquoi dirait-on parmi les nations, où est leur Dieu ? Tu es notre Dieu, tu es dans les cieux. Et tu fais ce que tu veux, Seigneur. Et nous voulons faire ta volonté, Seigneur, et nous piétinons. Nous piétinons dans cette ville de Guebwiller, nous piétinons. Dans tous les domaines qui sont les tiens, Seigneur, dans toute l'œuvre qui est la tienne, dans toute la partie du royaume de Dieu qui t'appartient. Seigneur, nous piétinons les œuvres de diable là où il veut nous intimider, là où il veut retenir, là où il veut arrêter. Nous parlons, nous, la multiplication en ton nom, Seigneur. Nous parlons, Seigneur, ces 100 maisons, ces 100 frères, ces 100 moyens, ces 1000 moyens que tu as pour nous, pour répondre à nos besoins. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Prends le temps dans nos cœurs, Seigneur, pour nous convaincre que c'est toi. C'est toi qui es le Dieu le véritable. C'est toi qui es l'Éternel qui pourvoit. C'est toi qui ne mens pas. C'est toi qui es la vérité. Merci pour chacun de mes frères et sœurs ici. Et merci de les bénir, Seigneur, dans la puissance de ton nom. Amen.